La désinformation sur les réseaux sociaux, ça ne date pas d'hier, mais depuis l'arrivée de la pandémie, là, on a une panoplie d'articles de personnes qui font des vidéos et qui donnent leur opinion. Parce que eux, ils croient que c'est de l'information, mais c'est souvent des opinions sur des choses. Et ben, ça fait en sorte que ça se propage à la vitesse de l'éclair. Et souvent, les gens, bon, ils vont regarder une vidéo, mais ils vont pas nécessairement vérifier l'information sur un média traditionnel. Et la désinformation, c'est carrément rendu une pandémie. Mais pour solutionner le problème, il y a une équipe de chercheurs de l'Université de Calgary qui s'est dit « Hey, nous, on va créer une campagne de communication capable de se propager à la même vitesse que la désinformation sur les réseaux sociaux. » Et je m'entretiens aujourd'hui avec Jean-Christophe Boucher, qui est professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary, parce qu'il participe à ce projet. Bonjour, M. Boucher.
Bonjour.
Alors, quelle est cette campagne que vous voulez faire sur les réseaux sociaux?
À toute fin pratique, il y a à peu près 6 mois, on travaillait déjà sur les campagnes de communication sur le HPV et sur les vaccins en général à l'Université de Calgary. Et on a été approchés par les gens de Alberta Health Services pour essayer de développer une campagne de communication plutôt sur les médias sociaux et qui pouvait justement mettre l'accent sur la façon dont les médias sociaux créaient des chambres d'écho et créaient des avenues de communication qui étaient très différentes que ce qu'on voyait traditionnellement. Et donc, l'un des trucs qu'on a commencé à développer avec des fonds de Alberta Innovates, essentiellement, ce que l'on fait, c'est qu'on collige une grande partie des interactions sur les médias sociaux, sur Twitter, par exemple, qui traitent de la vaccination de la COVID. Et on collige à peu près quelque chose comme 1 million de tweets par semaine. Et après ça, avec des analyses de réseau et de l'intelligence artificielle, on arrive à comprendre davantage la façon dont les groupes anti-vaccins discutent de la vaccination de la COVID. Et également la façon dont les groupes pro-vaccins parlent de la COVID et dans le fond d'essayer d'aider tant les autorités de la santé publique, mais également les gens qui travaillent dans les campagnes de communication, de développer une communication qui est plus adaptée à l'audience, c'est-à-dire comment on doit parler avec les anti-vaccins, comment on peut essayer d'augmenter la chance qu'ils acceptent de se faire vacciner et aussi comment on peut faire ça de la même façon avec les pro-vaccins.
Mais vous êtes un chercheur, donc vous êtes habitué d'écrire des rapports longs de 30, 40, 50 pages. Comment vous allez vous adapter à écrire des petits articles de blog?
C'est vrai. En fait, c'est vraiment ça qui est la différence entre la recherche académique et le travail dans un gouvernement. C'est que dans les gouvernements, on s'attend à ce qu'on ait des réponses tout de suite, maintenant, avec beaucoup de données. Tandis que dans le milieu académique, on prend le temps d'écrire des longs articles. On avait déjà une équipe à l'École de politique publique qui travaille sur les enjeux des données et de la politique publique. On a commencé à développer vraiment une expertise à l'Université de Calgary sur ce sujet-là. Et c'est vraiment l'application de l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle dans les politiques publiques, soit au niveau de la défense nationale, l'immigration, l'économie. Et donc, on avait déjà des gens qui travaillaient avec nous, tant des codeurs, des gens qui sont en sciences informatiques et qui sont au sein de notre équipe de recherche. Et donc, on arrive maintenant à pouvoir faire ça suffisamment vite et automatiser suffisamment vite le processus qu'on, à toutes les semaines à peu près, on est capable d'analyser la dernière semaine de conversation et après ça, de fournir cette information-là
à la population.
À la population, puis aussi aux compagnies de marketing puis de communication qui doivent, après ça, développer des messages qui s'ajustent avec ce problème-là. Et ce qui est intéressant, c'est que, justement, sur la COVID et l'histoire de la vaccination de la COVID, ça évolue tellement rapidement sur les médias sociaux. À chaque semaine, on a de nouveaux trucs. Et à chaque semaine, on a de nouvelles données, on a des nouvelles histoires. En ce moment, aujourd'hui, on est en train de regarder des données de la semaine passée et on est en train de voir toutes les campagnes de désinformation sur des cas en Norvège, sur la CDC, les groupes aux États-Unis et en France qui justement développent ces campagnes de désinformation-là. On les voit venir, on voit à quel point ils sont importants et après ça, on est capable d'avoir une meilleure compréhension de la façon de s'attaquer à ces problèmes-là, de dire ben, quelle proportion de la campagne de communication doit se centrer ou se centraliser sur les questions d'efficacité du vaccin, également de la sécurité du vaccin, mais aussi tout l'ensemble de la critique des institutions envers la façon dont on développe les politiques de santé sur la vaccination spécifiquement.
Mm-hmm. Et quels sont les mythes les plus courants sur le vaccin?
Ah, ça, c'est intéressant. En fait, il y a à peu près, en ce moment, l'une des trucs qui est vraiment étonnant des données qu'on recueille, c'est que la désinformation sur le vaccin de la COVID spécifiquement, c'est à peu près 50% de la conversation anti-vaccin. Il y a un autre 50% qui n'a pas vraiment à voir avec les vaccins. Lorsque, sur les vaccins, il y a à peu près deux questions importantes qui se génèrent et qui expliquent pourquoi les gens ne veulent pas se faire vacciner. D'une part, l'efficacité. Il y a vraiment cette idée selon laquelle les vaccins de la COVID, peu importe ceux lesquels qu'on a, n'arrivent pas vraiment à donner une immunité aux gens. Et donc, on voit des histoires, par exemple, des infirmières qui ont été vaccinés et qui, après ça, ont dit qu'il y a eu des éclosions de la COVID dans des groupes, dans des hôpitaux, des trucs comme ça. Et donc, vraiment, on s'attaque à l'idée de l'efficacité. C'est des histoires qui sont fausses et les données ne démontrent pas ça, mais c'est quand même important. Au niveau de la sécurité, on sait que tous les vaccins ont toujours des effets secondaires. La majorité du temps, ces effets secondaires-là sont minimes, on a une rougeur, ça fait mal un peu. Mais on a des études et on a des tweets qui viennent des États-Unis, de la Norvège, du Royaume-Uni qui semblent amplifier ces histoires d'effets secondaires. Et ça, c'est quand même intéressant. Et on les voit vraiment venir dans la conversation. Et on voit aussi comment les groupes anti-vaccins, surtout aux États-Unis, utilisent ces histoires-là pour essayer de propulser et augmenter l'hésitation. L'autre problème, c'est vraiment un manque de confiance dans les autorités de la santé publique puis dans les gouvernants. Et ça, c'est à travers, à l'échelle mondiale, dans une large mesure, au moins dans les groupes anti-vaccins, il y a vraiment une critique qui est faite envers les institutions politiques. Il y a vraiment un questionnement qui se fait sur comment trouver la juste limite entre la liberté des gens de se faire vacciner et les besoins de santé publique, qui est qu'on a besoin de 80 à 85% des gens de se faire vacciner. Et il y a vraiment ce manque de confiance dans les autorités qui mine dans une large mesure la campagne de vaccination de la COVID. C'est-à-dire que les gens ne sont pas vraiment concernés par le vaccin en tant que tel, plutôt que sur la capacité des gouvernants de leur dire quoi faire, de développer des règles et des lois qui permettent justement une sortie de crise de la pandémie dans les prochains jours. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que pour les autorités de la santé publique, c'est facile. C'est relativement facile de s'attaquer à la désinformation, à augmenter justement le niveau de conversation sur l'efficacité et la sécurité du vaccin. C'est très difficile de convaincre les gens d'avoir confiance dans les autorités publiques, d'avoir confiance dans les politiciens qui prennent ces décisions-là, d'avoir confiance dans les pharmaceutiques. Et il y a comme un entrecoupement entre les mouvements populistes à travers les démocraties et vraiment cette idée selon laquelle la crise de la COVID est une façon pour les élites de contrôler la population. Et donc, l'enjeu est politique autant que juste de santé publique.
C'est ça, parce que vous parlez des théories du complot, mais c'est drôle que vous parliez d'un manque de confiance parce que ça peut faire aussi l'effet contraire. Et on l'a vu avec Donald Trump. Les gens, il y a une partie de la population qui s'est mise à l'idolâtrer. Et je pense que Jason Kinney aussi en fait partie de certaines de ces théories du complot. C'est pas un influenceur de théories du complot, Jason Kinney?
Ah, Ce que nous, on voit, c'est qu'il y a vraiment un entrecoupement entre les mouvements conservateurs et les mouvements anti-vaccins. Ce que l'on voit, par contre, c'est que à part quelques leaders d'idées conservateurs aux États-Unis et au Canada, la majorité des politiciens, dont Jason Kenney et d'autres politiciens au niveau fédéral, ne développent pas un message anti-vaccin. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde leurs tweets, ils ne sont pas anti-vaccins, ils ne sont pas, conspirationnistes. Toutefois, ces gens-là sont tenus en confiance par des gens qui entretiennent cette conspiration-là. D'une certaine façon, c'est un peu être pris par la réputation des gens qui nous entourent plutôt que nos propres idées. Mm. Et c'est pour ça, par exemple, que l'un des trucs auxquels on pense en ce moment, c'est que pour atteindre les chambres d'écho anti-vaccins, d'avoir les leaders conservateurs avoir une position sans équivoque sur les vaccins, sur la vaccination, aide beaucoup à combattre la désinformation et à combattre l'idée et à combattre l'hésitation dans la vaccination. Parce que d'une certaine façon, pour beaucoup de gens à la droite de l'idéologie politique, lorsque notre premier ministre Justin Trudeau parle qu'on doit se faire vacciner, ce message-là, en fait, rentre pas dans cette chambre d'écho-là. Et d'une certaine façon, ces gens-là n'ont pas confiance dans le gouvernement canadien en raison du parti politique qui contrôle le gouvernement en ce moment. Mm-hmm. Toutefois, lorsque les conservateurs le font, ils disent « ben moi, je vais me faire vacciner et vous devriez vous faire vacciner aussi », ça a un impact parce que là, tout d'un coup, on a justement ces gens qui entretiennent ces relations-là. Et donc, c'est une joute interne au mouvement conservateur, tant au Canada qu'à travers le monde, qui est très difficile et qui rajoute une couche de complexité à l'ensemble de la sortie de crise qu'on essaie de développer. Dans une large mesure, on doit essayer de convaincre 80 à 85% des gens de se faire vacciner. Et en ce moment, toutes les données semblent nous indiquer qu'on est à 60, 70%. Et donc, on est vraiment en deçà de ce qu'on devrait avoir. Et là, il faut trouver des façons de justement convaincre certains influenceurs, dont les leaders conservateurs, de prendre le flambeau et, dans le fond, de faire acte de leadership dans la sortie de crise et dire, ben, écoutez, si on veut ouvrir l'économie, si on veut retrouver les libertés qu'on aime tant, ben, il va falloir que les gens acceptent de se faire vacciner pour que, justement, la crise
se termine.
Ouais, se termine.
On espère un jour.
Ouais. Non, mais ça va arriver. C'est juste à quelle vitesse on va le faire. Et dans les faits, on a besoin de tous les acteurs politiques à travers le Canada, mais également à travers le monde, d'avoir un message sans équivoque, c'est-à-dire faites-vous vacciner. Ça, c'est important. Et dans certains cas, certains leaders conservateurs, pas Jason Kenney, mais certaines personnes dans son caucus, ont vraiment un message très, 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 très limite sur la vaccination, sur la liberté. On voit, par exemple, certains MLA du mouvement conservateur en Alberta qui sont anti-masques, qui sont anti-lockdown, qui sont vraiment à toute fin pratique anti-comportement responsable pour la COVID. Certains même vont à l'étranger faire des vacances.
Je suis contente que vous le disiez, je m'en allais le dire.
Mais c'est ça aussi qui mine la confiance de l'électorat. C'est-à-dire que lorsque les gens sont ici à Calgary à sacrifier leurs vacances de Noël puis à ne pas voir grand-maman, puis après ça, on voit que nos leaders politiques décident de faire fi des mesures mises en place par le gouvernement, il y a comme un effet de backlash, il y a comme un effet de rejet où les gens se disent, ben, si les leaders politiques ne sont même pas capables de suivre les indications de santé publique, pourquoi moi je le ferais?
Surtout que c'est eux qui les imposent.
Surtout que c'est eux qui les mettent en place et qui les représentent. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné, il faut que ces gens-là acceptent qu'ils ont une responsabilité de mener la charge contre la COVID. Et ça fait mal. Moi, c'est drôle parce qu'avec tous nos amis, on travaille étroitement avec les gens de AHS, avec les gens de l'école de médecine, avec tout le monde. Et c'est vraiment un groupe qui est multidisciplinaire, entre avec des ingénieurs, des gens en sciences sociales comme moi. Et lorsqu'on se tweetait ensemble, on disait, ben là, les gens qui partent là, à Hawaï, là, ben, ils viennent juste de nous coûter 5 % de vaccination. Et là, il va falloir qu'on trouve une façon de rehausser la confiance du public envers les autorités de la santé publique parce qu'on n'arrivera pas à ça. Et c'est encore une lutte, c'est encore très difficile. Les mouvements conservateurs au Canada n'ont pas encore une politique très claire sur la vaccination. En fait, pas ce que moi j'ai vu. On n'a pas vu encore beaucoup de leaders conservateurs sortir et faire des déclarations très publiques de dire « Moi, je vais me faire vacciner. Je vais faire vacciner mes grands-parents. Je vais faire vacciner mes enfants. » et on va, c'est ensemble qu'on va arriver à sortir de ça. Et ça pose problème. Il y a comme un problème de leadership, mais également un problème de comprendre vraiment où on en est dans la crise.
Jean-Christophe Boucher, professeur adjoint à l'École des politiques publiques de l'Université de Calgary. Bravo pour votre idée de campagne d'information. Je trouve ça très intéressant et j'espère vous recevoir à l'émission d'ici quelques mois pour savoir là, comment ça va avoir circulé ces articles-là. Merci beaucoup.